Épître de Jean, chapitre 4.
Lecture de la parole. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un l'autre. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que, comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous, nous l'aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Lecture de l'étude. Parmi les diverses ruses du diable, l'imitation occupe une place prépondérante. Dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsque Dieu agissait puissamment par Moïse devant le Pharaon, les devins égyptiens se sont empressés d'imiter autant que possible ce que faisait Moïse, afin d'en annuler les effets sur l'esprit du roi. De même, lorsque le sanctuaire de Dieu a été bâti à Jérusalem, et que le service divin a été établi avec toutes ses ordonnances, Jéroboam en a facilement détourné les 10 tribus en instituant une religion d'imitation dont le centre se trouvait à Bethel et à Dan. Les premiers versets du chapitre 4 nous montrent que très peu de temps après que la foi eut été enseignée aux saints par les apôtres, Satan a commencé ses imitations trompeuses. Jean, le dernier parmi les apôtres, a vécu assez longtemps pour voir beaucoup de faux prophètes sortis dans le monde, verset premier. Les apôtres, que ce soit par leurs paroles ou par leurs écrits, avaient communiqué la parole de Dieu inspirée, étant manifestement poussés par le Saint-Esprit. Rapidement, d'autres hommes se sont levés. Eux aussi ont parlé, étant poussés par la puissance d'un esprit, en prétendant que leurs paroles étaient aussi inspirées. mais ce qu'ils disaient était bien différent de ce que les apôtres avaient enseigné, malgré leur affirmation que leurs enseignements n'en étaient qu'une amélioration et une extension. Tout cela pouvait paraître assez attrayant et était à même de séduire. Mais était-ce la vérité? Comment cet enseignement pouvait-il être mis à l'épreuve? Nous avons déjà remarqué de quelle manière toute prétention est testée dans cette épître, et il est évident que plus nous avons affaire à des imitations, plus les tests deviennent nécessaires. La question placée devant nous est d'une importance capitale. Comment pouvons-nous différencier l'Esprit de Dieu de l'Esprit de l'Antichrist, l'Esprit de vérité de l'Esprit d'erreur? Les esprits doivent être éprouvés, mais avec quels critères? Le test est premièrement Christ lui-même et la vérité qui concerne sa personne. Est-ce que l'Esprit confesse Jésus-Christ venu en chair? Si c'est le cas, il est de Dieu. Sinon, il n'est pas de Dieu. C'est un test très simple. Et si nous y réfléchissons un peu, nous verrons que c'est un test très profond. Comme êtres humains, nous ne pouvons pas dire que nous sommes venus en chair. Il y a bien longtemps, l'Éternel a dit « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. » Genèse 6, verset 3. Nous sommes chair. Et de plus, nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes comme venus en chair, puisque nous n'avons pas d'existence antérieure et nous n'avons pas eu de choix quant à la manière de venir. Pour être de la race humaine, nous devons être dans des corps de chair et de sang. Mais il n'en est pas de même de Jésus-Christ. Il avait une existence antérieure et il aurait pu venir d'une autre manière. En fait, il est apparu sous d'autres formes dans l'Ancien Testament, par exemple comme l'ange de l'Éternel. La vérité est que Jésus-Christ, cette personne, le Fils éternel de Dieu, est venu en chair afin d'être véritablement homme au milieu de nous. Les docteurs antichrétiens ne confessaient pas cela. Ils n'avaient pas un enseignement saint au sujet de la divinité de Christ, comme nous l'a montré le verset 22 du chapitre 2.
Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils.
Et il n'avait pas un enseignement saint au sujet de son humanité, comme nous le montre le verset 2 de notre chapitre. L'histoire nous enseigne que l'une des premières hérésies qui ont affligé l'Église primitive est celle que Jean combat ici. Elle est connue sous le nom de docétisme, enseignement qui prétend que, la matière étant une chose mauvaise, Christ ne pouvait pas avoir un véritable corps humain de chair et de sang, que son corps paraissait seulement être tel, mais qu'il s'agissait seulement d'une vision. Une autre forme d'erreur quant à l'humanité de Christ a également troublé l'Église primitive lorsque apparurent des docteurs affirmant que le siège du péché est dans la partie spirituelle de l'homme plutôt que dans son corps matériel. Il niait l'humanité de Christ quant à la partie spirituelle de son être, tout en retenant la réalité de sa chair. Cependant, ils apparurent un ou deux siècles plus tard, et il n'y a pas d'allusion à cet enseignement ici. Jésus-Christ est venu en chair, une chair d'une nature parfaitement sainte, et ainsi il y a eu en lui cette merveilleuse manifestation de la vie éternelle dont parle le premier verset de l'Épître. Nier sa venue en chair revient à nier non seulement la possibilité de cette manifestation claire au milieu de nous, mais aussi la manifestation de la plénitude de la divinité en lui. Mais ceci est exprimé ici d'une façon encore plus forte. Pour discerner l'erreur, nous n'avons pas besoin d'attendre une négation ouverte de la vérité. Ne pas la confesser trahit l'esprit de l'Antichrist. Au verset 4, nous avons le contraste entre les enfants, la famille de Dieu entière, et ses faux prophètes. Les uns sont de Dieu, les autres sont du monde. au chapitre 2, nous avons vu comment le Père et le monde sont en contraste complet. Ici, nous apprenons qu'il existe deux familles provenant de ces deux sources et qu'elles sont autant en contraste que les sources dont elles viennent. De plus, en chacune d'elles habite une puissance, bien que le mode de cette habitation soit sans doute différent dans les deux cas. Il y a celui qui est en vous et celui qui est dans le monde. Les enfants de Dieu ont l'onction de l'Esprit de Dieu. Quant au monde, il gît dans le méchant. Chapitre 5, verset 19. Le méchant est par conséquent en lui.
Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant.
Quel immense encouragement pour nous de savoir que l'Esprit de Dieu est plus grand que toute la puissance de l'adversaire. C'est la raison du fait extraordinaire que la foi chrétienne ait survécu au cours des siècles. Certes, selon les critères ordinaires, les croyants ne constituent pas un peuple sage, et en plus de cela, il y a eu beaucoup d'infidélité parmi eux. Les coups les plus forts et les plus meurtriers contre la foi ont été donnés par ceux qui l'ont professée. Mais la foi a survécu à tous les coups donnés contre elle par des croyants infidèles, ainsi qu'à tous les coups donnés par des méchants à des croyants fidèles, grâce à l'habitation du Saint-Esprit en nous. Ce qui est dit ici, cependant, c'est que, par lui, nous sommes vainqueurs des enseignements séducteurs des antichrists. Au chapitre 2, nous avons vu que nous en sommes vainqueurs par la parole de Dieu qui habite en nous. Mais, bien sûr, elle n'habite vraiment en nous que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Les mots du verset 5 « Ils sont du monde » sont en grand contraste non seulement avec ce qui précède « Vous êtes de Dieu » mais aussi avec ce qui se trouve dans le verset suivant « Nous sommes de Dieu ». Ce « nous » désigne bien évidemment les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament par le moyen desquels la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Le contraste est entre les affirmations des uns et des autres. Ceux qui sont du monde parlent selon les principes du monde. Le monde caractérise leur origine et leurs affirmations. Ceux qui sont de Dieu parlent de la part de Dieu. Ce fait nous présente un autre critère nous permettant de tester les enseignements que nous recevons. Les fausses doctrines sont du monde, car elles procèdent de principes mondains et en portent l'empreinte. En conséquence, ceux qui sont du monde les apprécient, les comprennent et les reçoivent. Ils sont flattés et encouragés dans leur esprit mondain au lieu d'être inquiétés et de s'en détacher. L'enseignement apostolique était d'un tout autre ordre. Les apôtres parlaient de Dieu et de la part de Dieu. La puissance et l'autorité de leurs affirmations étaient d'emblée reconnues par ceux qui étaient de Dieu et qui connaissaient Dieu, tandis que ceux qui n'étaient pas de Dieu ne les écoutaient pas. Voilà un troisième critère. Ceux qui viennent à nous comme docteurs de la vérité acceptent-ils l'autorité des apôtres? S'ils ne les écoutent pas, nous pouvons être sûrs qu'ils ne sont pas de Dieu. Vous remarquerez que ce test est le même que celui dont parle le Seigneur en Jean 10, relativement à lui-même. Mes brebis écoutent ma voix, alors que ceux qui ne sont pas ses brebis ne croient pas. Lorsque le Seigneur était sur la terre, ceux qui étaient de Dieu étaient caractérisés par le fait qu'ils l'écoutaient. C'était l'écoute de la foi. Lorsque les apôtres étaient là, ceux qui étaient de Dieu étaient caractérisés par le fait qu'ils les écoutaient. C'était l'écoute de la foi. Maintenant qu'ils s'en sont allés, nous avons leurs écrits, l'écriture inspirée, et ceux qui sont de Dieu sont caractérisés par le fait qu'ils les écoutent, et c'est toujours l'écoute de la foi. Le mode de communication est différent, mais ce qui est communiqué a, dans chaque cas, la même autorité. Un roi peut parler en personne, il peut parler par l'intermédiaire de ministres dûment accrédités, et ceux-ci peuvent mettre son message par écrit. Il y a une différence quant au mode de communication, mais il n'y en a pas quant à l'autorité du message. Il est important d'être tout à fait au clair sur ce point, car il y a des personnes aujourd'hui qui jettent du discrédit sur les apôtres et sur leurs écrits inspirés, sous le couvert du cri trompeur « Revenons à Christ ». Il commence par dire que seules ces affirmations directes peuvent être citées comme ayant pleine autorité. Mais il ne s'arrête pas longtemps là. Il n'y a d'ailleurs rien de solide dans une telle position, puisque chacune des affirmations de Christ qui nous a été rapportée l'a été par le moyen des écrits apostoliques ou prophétiques. Ainsi, ces gens en arrivent bientôt à n'écouter que ce qu'ils veulent de l'enseignement de Jésus. Finalement, ils ne croient qu'en leur capacité de jugement et de choix, c'est-à-dire qu'en eux-mêmes. Nous pouvons être reconnaissants que Dieu ait renversé ces hérésies de la première heure en nous fournissant des tests simples qui ont autant de valeur aujourd'hui que le jour où ils furent donnés. C'est en effet par ce moyen que nous pouvons connaître l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Si nous voulons agir sagement lorsque nous sommes placés devant des enseignements douteux, nous appliquerons immédiatement ces tests au lieu de nous appuyer sur notre intelligence. Au verset 7, nous revenons à la ligne principale de la pensée de l'apôtre. Il est nécessaire de faire une digression de temps à autre afin de mettre en garde contre le mal. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le bien et ce qui est de Dieu. Or, l'amour est de Dieu, et, comme enfants de Dieu, notre première tâche est de nous aimer l'un l'autre. C'est par cela que nous manifesterons la nature divine et que nous rendrons évident que nous sommes nés de Dieu et le connaissons. Celui qui est né de Dieu aime d'une manière divine, et celui qui aime d'une manière divine est certainement né de Dieu. Les deux affirmations sont vraies. La différence est que dans un cas, on va de la source vers le résultat, alors que dans l'autre, on remonte du résultat vers la source. À l'inverse, celui qui n'aime pas de cette manière divine ne connaît pas Dieu, et cela pour la simple raison que Dieu est amour. Au début de l'Épître, il nous a été dit que « Dieu est lumière », chapitre 1, verset 5. Ce fait est la base même de tout ce qui a été mis en lumière en Christ. Dans notre chapitre, nous rencontrons à deux reprises le fait conjoint « Dieu est amour », verset 8, verset 16. À première vue, il pourrait sembler qu'il y ait conflit entre les deux. Le péché a été introduit par le diable afin qu'il y ait conflit entre la lumière et l'amour en Dieu. Mais l'Écriture entière peut être considérée comme la présentation de la réponse de Dieu à cette difficulté. C'est l'histoire du moyen merveilleux par lequel la lumière et l'amour ont coopéré harmonieusement pour la gloire de Dieu et pour notre bénédiction. Dieu est amour. C'est une affirmation fondamentale. Mais si les hommes en cherchent la confirmation dans le monde pécheur et malade qui nous entoure, ils ne la trouveront pas. C'est dans la bonne direction qu'il nous faut regarder. Les versets 9 et 10 nous disent clairement qu'il y a eu une manifestation parfaite de l'amour de Dieu. C'est l'envoi du Fils, ainsi que tout ce qui y est lié, qui ont complètement manifesté cet amour. Le Fils a été envoyé dans le monde où nous gisions sous le poids de nos péchés, spirituellement morts. Il est venu afin que nous puissions vivre par lui, et dans ce but, il a fait propitiation pour nos péchés. La vie était l'objectif, mais pour que nous puissions vivre, la propitiation était nécessaire. La vie et la propitiation, deux choses magnifiques. Au moment de notre conversion, nos pensées se portent surtout sur la deuxième de ces choses. Nous sommes convaincus de nos péchés et comprenons combien nous avons besoin de pardon. Quel soulagement, alors, de découvrir la propitiation faite par le Fils, lui qui a été envoyé dans le monde comme don de l'amour de Dieu. Mais plus tard, nous commençons à réaliser que la propitiation nous a ouvert les portes de la vie et que le dessein de Dieu est que nous vivions par celui qu'il a envoyé. Ici, ce grand fait nous est présenté d'une manière générale. Nous vivons par lui, parce que c'est lui qui a fait l'œuvre nécessaire pour cela. Dans le chapitre suivant, nous trouverons que la vie que nous avons est en lui. C'est parce que nous sommes en lui que nous l'avons. En Galates 2, verset 20, c'est d'une manière pratique que notre vie est par lui, car il en est l'objet.
Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
En 1 Thessaloniciens 5, verset 10, nous apprenons que notre vie sera avec lui pour toujours.
Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
Nous pouvons bien être remplis de louanges et de reconnaissance de ce qu'il soit venu dans ce monde pour que nous vivions par lui, particulièrement lorsque nous considérons ce que sa venue a impliqué pour lui et pour Dieu qui l'a envoyé. C'était véritablement l'amour. Cet amour merveilleux nous impose une obligation, nous devons. Ce n'est pas que nous pouvons aimer, ni même que nous aimons effectivement, mais que nous devons nous aimer l'un l'autre, ayant été aimés d'un tel amour. Ne nous soustrayons pas à la pensée de l'obligation. Ce n'est pas une obligation légale, quelque chose que nous devions réaliser pour assurer notre position devant Dieu. C'est une obligation basée sur la grâce et sur la nature que nous possédons comme étant nés de Dieu. Comme enfants de Dieu, c'est dans notre nature d'aimer, mais cela n'enlève rien au fait que nous en avons le devoir. Nous devons nous aimer les uns les autres, parce qu'ainsi l'amour de Dieu est consommé, ou rendu parfait, en nous. Verset 12. L'amour a été versé sur nous, et son but est entièrement ou parfaitement atteint lorsqu'il se déverse depuis chaque croyant sur ceux qui l'entourent. Alors, effectivement, Dieu demeure en nous, car il est amour, et il peut être vu comme étant reflété par ses enfants. Ce verset peut être comparé avec Jean 1, verset 18.
Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître.
Les deux versets débutent de la même manière. Dans l'Évangile, Dieu est manifesté dans le Fils. Dans l'Épître, il doit être vu comme demeurant dans ses enfants. C'est ce qu'implique clairement ce verset. Si Dieu demeure en nous, il sera certainement vu en nous. Mais si nous savons qu'il demeure en nous, c'est par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous pouvons comparer le verset 13 avec la dernière phrase du chapitre précédent. Là, il demeure en nous. Ici, nous demeurons en lui et lui en nous. Mais dans les deux cas, il nous est dit que la connaissance de ces merveilleuses réalités est par l'Esprit qui nous a été donné. Étant nés de Dieu, nous avons sa nature qui est amour. Mais en plus de cela, il nous a donné de son Esprit. Et par cette onction, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous. Cependant, l'Esprit est la puissance pour le témoignage. Et ainsi, le témoignage caractéristique des enfants de Dieu est placé devant nous au verset 14. Le « nous » de ce verset peut de nouveau désigner, tout au moins dans son sens premier, les apôtres. Ils l'ont vu comme le sauveur du monde d'une manière différente de nous. Mais dans un certain sens, nous pouvons tous le dire. Nous savons que le Père a envoyé le Fils dans un but non moindre que celui-là. Il a souvent été remarqué que l'évangile de Jean conduit nos pensées au-delà de tout ce qui se rapportait aux Juifs pour les porter sur les desseins divins plus vastes liés au monde entier. En Jean 1, par exemple, Jésus n'est pas annoncé comme celui qui doit sauver Israël, mais comme celui qui ôte le péché du monde. En Jean 4, les Samaritains l'entendent eux-mêmes et découvrent qu'il est le Christ, le Sauveur du monde. Or ce qu'ils ont découvert, c'est ce que nous avons tous découvert et qui devient le thème de notre témoignage. Quel merveilleux enchaînement dans tout ce que nous avons considéré. Dieu est amour. Son amour a été manifesté dans l'envoi du Fils. Nous vivons par lui. L'Esprit nous est donné. Nous demeurons en Dieu. Dieu demeure en nous. Nous nous aimons les uns les autres. Dieu, qui est invisible, est reflété par nous devant les hommes. Nous témoignons devant les hommes que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Tout pivote autour de l'amour, l'amour divin, qui nous a été révélé et qui opère maintenant en nous. Et plus l'amour est opérant en nous, plus notre témoignage au Sauveur du monde sera efficace. Lorsque Jean écrivait son épître, c'était une chose bien connue qu'un homme, Jésus de Nazareth, était apparu dans le monde et était mort crucifié. Il n'y avait pas un besoin particulier de témoigner de cela. Mais le témoignage qui devait être rendu concernait la vérité quant à sa personne. Qui était-il réellement et qu'était-il venu faire? Ainsi, nous témoignons qu'il était le Fils, envoyé par le Père, ayant en vue le salut du monde. Tous ceux qui reçoivent le témoignage chrétien croient en Jésus comme étant le Fils de Dieu et le confessent comme tel. Et quant à celui qui le confesse ainsi, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous avons déjà remarqué que ce mot « demeurer » caractérise cette épître. Au chapitre 2, à partir du verset 6, nous avons quatre fois « demeurer en lui ». Verset 6.
Celui qui dit « demeurer en lui » doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.
Verset 24.
Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père.
Verset 27.
Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui.
Verset 28.
Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance.
On en trouve une cinquième mention au verset 6 du chapitre 3.
Quiconque demeure en lui ne pèche pas.
Et une sixième dans le dernier verset de ce chapitre. Mais dans ce sixième passage, le fait parallèle de son habitation en nous est introduit, et nous savons qu'il demeure effectivement en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Au chapitre 4, cette seconde pensée qu'il demeure en nous est particulièrement soulignée, versets 12, 13, 15 et 16. Elle n'est pas dissociée du fait que nous demeurons en lui, mais c'est elle qui est ici clairement mise en relief. L'ordre dans lequel les choses sont présentées est clair et instructif. Il faut d'abord qu'il soit bien établi pour nous que nous demeurons en lui, et ensuite, comme découlant de cela, il demeure en nous. Dans ces quatre versets, son habitation en nous est successivement mise en relation avec, premièrement, nous aimer l'un l'autre, deuxièmement, il nous a donné son esprit, troisièmement, confesser Jésus comme Fils de Dieu, quatrièmement, demeurer dans l'amour, dans ce que Dieu est en lui-même. Il demeure en nous, afin que son caractère, son amour, sa vérité soient manifestés par nous. Nous pouvons observer en passant combien cela concorde avec l'enseignement de l'apôtre Paul. En lisant les premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, nous trouvons que le trait caractéristique est « en Christ ». Nous sommes en lui. Dans l'Épître aux Colossiens, le thème est « Christ en vous ». Nous sommes en Christ, afin que Christ puisse être en nous. Il y a cette différence pourtant. Pour Paul, il est davantage question de notre position et de notre état. Pour Jean, il s'agit plutôt de vie et de nature. Une autre caractéristique de notre épître est que dans les expressions « demeurer en lui », le mot « lui » se rapporte parfois à Christ et parfois à Dieu. Par exemple, en chapitre 2, verset 6, 2, verset 28 et 3, verset 6, il s'agit assez clairement de Christ. En chapitre 3, verset 24 et 4, verset 13, 15 et 16, il s'agit de Dieu. En chapitre 2, verset 24, il s'agit de demeurer dans le Fils et dans le Père. Mais en chapitre 2, verset 27, il serait difficile de dire qui est en vue. La manière dont tout le sujet est traité nous montre combien réellement le Fils est un avec le Père, de sorte que nous ne pouvons pas être dans le Fils sans être dans le Père, et que nous ne pouvons être dans le Père qu'en étant dans le Fils. Pour cette raison, le Fils est mentionné en premier lieu en chapitre 2, verset 24.
Vous demeurerez dans le Fils et dans le Père.
Mais dans le passage qui est sous nos yeux, il s'agit de Dieu. Nous demeurons en lui et il demeurera en nous. Dans l'épître aux Colossiens, nous sommes vus comme le corps de Christ et lui sera manifesté en nous. Ici, nous sommes les enfants de Dieu, nous constituons sa famille, nous tirons de lui notre vie et notre nature, et ainsi, celui qui est Père demeurera en nous et sera manifesté. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. De plus, le Dieu qui est amour sera vu demeurant en lui. Demeurer dans l'amour, quelle chose merveilleuse! N'importe quel récipient jeté dans l'océan et restant dans l'océan sera rempli de l'eau de l'océan. Ainsi l'enfant de Dieu, immergé dans l'amour de Dieu, en sera rempli. Dépendant de cela, c'est la chose nécessaire pour que notre témoignage au sujet du Père envoyant le Fils soit efficace. Il est nécessaire et bon que nous rendions témoignage de notre bouche. Mais si, en plus de cela, Dieu, dans la plénitude de son amour, est vu demeurant dans ses enfants, alors le témoignage aura certainement un effet. Un chrétien rempli de l'amour de Dieu a de la puissance, sans même en être conscient. Au verset 17, nous trouvons l'amour avec nous. L'amour a été consommé avec nous. Cela signifie que l'amour de Dieu a été amené à son apogée et à son but final en ce qui nous concerne. Celui qui demeure en Dieu, parce qu'il demeure dans l'amour, et en qui Dieu demeure par conséquent, doit nécessairement avoir de l'assurance au jour du jugement. Il aura même de l'assurance quant au jour du jugement, avant que celui-ci n'arrive, c'est-à-dire déjà maintenant. C'est une chose merveilleuse que l'amour de Dieu brille sur nous, mais que nous soyons amenés à demeurer en lui, afin que Dieu qui est amour demeure en nous. Cela nous amène véritablement à un sommet. Cela implique que, comme il est lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Cette courte phrase a une signification très profonde. Elle est parfaitement vraie si nous la lisons en relation avec notre position et notre acceptation devant Dieu. Mais c'en est une application et non pas son interprétation dans son contexte. Quand le Fils est devenu chair, il y a eu l'homme parfait qui demeurait en Dieu et en qui Dieu demeurait. Il en a été ainsi lors de son passage sur la terre, et il en est ainsi dans la gloire actuelle dans le ciel. Et de nouveau, nous devons dire ce qui est vrai en lui et en vous, chapitre 2, verset 8. Voilà les enfants de Dieu, ils demeurent en Dieu et Dieu en eux. Ils sont comme il est, et c'est un état actuel. Quelle merveille, ce point culminant de l'amour. Si nous le comprenons, même dans une très faible mesure, nous aurons certainement de l'assurance au jour du jugement. Bien que ce jour doive être celui de la terreur pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il ne peut susciter de la crainte dans le cœur de celui qui, maintenant et dans ce monde, demeure en Dieu et dans lequel Dieu demeure. C'est ce que le verset 18 nous dit. Il n'y a véritablement pas de crainte dans l'amour. Cet amour parfait du côté de Dieu, car tout procède de lui, doit nécessairement chasser la crainte et tous ses tourments. Il est possible que certains entretiennent de la crainte, soit à l'égard du jour du jugement, soit à l'égard d'autre chose. S'il en est ainsi, ils ne sont pas consommés, rendus parfaits, dans l'amour. Du côté de Dieu, l'amour a été consommé envers nous, rendu parfait. De notre côté, nous pouvons être en défaut à cet égard. Nous pouvons bien croire que Dieu nous aime, et pourtant ne pas demeurer dans l'amour d'une façon telle que la crainte ne trouve aucune place dans nos cœurs. L'amour de Dieu, lorsque nous le connaissons et en jouissons, non seulement chasse toute crainte de notre cœur, mais y produit une réponse d'amour. nous n'avons aucune capacité d'aimer d'une manière divine, si ce n'est comme résultat de l'amour de Dieu qui est versé en nous. À cet égard, nous sommes comme de petits réservoirs, tandis qu'il est la fontaine intarissable. Si nous sommes en contact avec la fontaine, l'amour peut découler de nous. Au verset 20, Jean place devant nous l'aspect pratique des choses. Quelqu'un pourrait dire « j'aime Dieu » d'une manière générale. Il pourrait même le dire dans un style hautement élaboré. Il pourrait s'adresser à Dieu comme dans un élan d'adoration, exprimer des pensées merveilleuses et utiliser des paroles d'amour. Mais tout cela doit être testé, car Dieu est invisible, et pour certains esprits féconds, les belles pensées et les belles paroles viennent facilement et ne coûtent pas cher. Qu'est-ce qui pourra tester la réalité d'une telle profession? Eh bien, voici un frère que l'on peut voir. Si je suis né de Dieu, tous ceux qui sont également nés de Dieu sont mes frères. Le Dieu que je ne peux pas voir m'est présenté dans celui qu'il a engendré, ce frère que je peux voir. Cela étant, le test présenté dans la question de Jean est sans échappatoire possible. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le même test est présenté d'une manière positive et affirmative au premier verset du chapitre suivant. Quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. C'est la troisième fois dans cette épître relativement courte qu'est présenté le sujet de l'attitude du croyant envers son frère. Nous l'avons rencontré au chapitre 2 dans les versets 9 à 11.
Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Et au chapitre 3, dans les versets 10 à 23.
Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre. Non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Enfant, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous assurerons nos cœurs devant lui, que, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions l'un l'autre selon qu'il nous en a donné le commandement.
C'est donc un sujet de très grande importance. Nous ne déduisons pas cela simplement de la place qui lui est accordée, mais du fait qu'au verset 21 de notre chapitre, il en est parlé comme d'un commandement. La nécessité de nous aimer les uns les autres comme frères, ce n'est pas seulement le message que vous avez entendu dès le commencement, chapitre 3, verset 11, mais le commandement de Dieu, selon que son Fils, Jésus-Christ, nous en a donné le commandement, chapitre 3, verset 23. C'est le commandement du Seigneur Jésus, ratifié et contresigné par Dieu, donc un commandement de la plus grande solennité. La triste histoire de l'Église montre combien il était nécessaire. Les dissensions et même la haine parmi les chrétiens ont amené plus de déshonneur sur le nom de Dieu et de désastre pour les saints que toute l'opposition et la persécution du monde. Si l'amour avait été en action parmi nous, nous n'aurions pas été épargnés de difficultés, mais nous les aurions affrontées dans un esprit différent, et au lieu d'être vaincus par elles, nous les aurions surmontées. Ne nous est-il pas dit ailleurs que l'amour ne périt jamais ?